On se retrouve, un nouvel épisode, encore, oui, ça continue encore et encore, c'est que le début, je vous assure. Quelle joie de retrouver toutes les semaines une nouvelle personne qui nous parle de son expérience, de son expertise, dans tout ce qui touche au savoir-être, au travail. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Philippe Ackermann, il est conférencier et va nous parler de la réussite par l'optimisme. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur et votre hôte pour ce podcast. On le retrouve tout de suite. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Johanna.
Aujourd'hui, nous allons parler de réussite et d'optimisme, de bien-être. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, en fait, moi je suis coach, conférencier dans ce qu'on appelle le leadership positif, et ça depuis maintenant plus de 20 ans. Le leadership positif, tu le sais, c'est tout ce qui est le management par le bien-être, le bonheur et l'optimisme, un management dans les entreprises, un management dynamique. Et ça fait plus de 30 ans maintenant que je travaille sur ce sujet-là. J'ai travaillé plus de 10 ans en tant que dirigeant d'entreprise, où j'ai mis en place beaucoup de choses par rapport à justement au bien-être et à l'optimisme, et ça fait maintenant 20 ans que je travaille en tant que coach et conférencier sur ces domaines-là.
Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton expérience en tant que chef d'entreprise ?
J'ai été pendant de l'âge de 27 ans à l'âge de 40 ans directeur général d'une grosse société qui a atteint 350 salariés, mais quand on me l'a confié, elle avait 75 salariés et elle était en faillite. Mais je ne savais pas qu'elle était en faillite et j'ai été nommé directeur général à 27 ans parce que la société était en faillite. Et je dis souvent, c'est une sacrée opportunité parce que s'il n'avait pas été en faillite, je n'aurais pas été directeur général. Donc, on s'est dit, ce jeune qui est là, de toute façon, la boîte est foutue. On va lui confier la direction. S'il y arrive, tant mieux. Et s'il n'y arrive pas, c'est dans l'ordre des choses. Et très rapidement, avec les convictions que j'ai du bonheur, de réussite, d'optimisme, en un an, on a redressé la société.
Un an, c'est quand même très court. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les leviers que tu as utilisés pour réaliser ça ?
Les leviers principaux, c'est que à l'âge de 21 ans, j'ai pris la décision d'être heureux.
Bonjour Jean-Philippe.
Oui, c'est important parce que ça, en fait, tout part de là. Tout part de là. Et quand, à 26 ans, je suis embauché comme commercial dans cette fameuse société, à 26 ans et demi, je suis directeur commercial. Et à 27 ans, un an après, je suis directeur général. Et bien, je viens de te donner les circonstances. Et donc, quand j'ai vu que la société était en faillite, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? J'étais pas très féru en management à l'époque, mais j'avais cette conviction du bonheur. Et je me suis dit, puisque toi, tu as décidé d'être heureux, tu vas rendre heureux tes collaborateurs, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, peut-être que tu peux échouer, mais qu'au moins, ils soient heureux de venir travailler, qu'ils soient heureux le matin d'arriver, et qu'ils soient heureux surtout le soir de partir et de dire à leur conjoint, on est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, on est en train de redresser une société, et puis on est heureux d'aller travailler. Et donc, je ne savais pas, c'est que le bonheur, c'était vraiment un acte, un levier extraordinaire. Et en un an, on a redressé la société grâce à ça et puis grâce aussi à l'optimisme. Donc après, j'ai inventé un mode de management, un mode managérial complètement basé sur le bonheur. On est dans les années 1980, c'est pas la mode du bonheur au travail, tu vois. Mais déjà, en fait, j'avais compris que ça fonctionnait.
Tu dis, à 21 ans, j'ai pris la décision d'être heureux. Qu'est-ce qui t'est arrivé à 21 ans ?
En fait, à 21 ans, je fais l'armée, je suis en Allemagne, et mon job, si on peut dire, à l'armée, c'est de jouer au foot. Donc, je suis complètement insouciant. On est dans une caserne de 50 militaires. Moi, je joue au foot. De temps en temps, j'ai un rôle qui est de gérer le foyer, mais bon, c'est pas un rôle très important. Et il arrive un événement, c'est que le général de corps d'armée d'Allemagne décède et on me demande de faire partie des 4 militaires qui vont rendre les honneurs et qui donc vont passer un moment dans la chapelle ardente. Et donc je me retrouve à la droite de la tête de ce fameux général et c'est ma première confrontation à la mort. C'est pas quelqu'un de ma famille, mais quand même c'est ma première confrontation à la mort. Je suis quand même assez perturbé. Quand je rentre dans la caserne, je suis perturbé parce que j'ai vu pendant une heure, deux heures, trois heures, je ne sais pas le temps, c'était long pour moi, La tête de ce général mort, les personnes qui passent devant, tristes ou nettes, en pleurant pour certains, etc. Et là, je me rends compte, en fait, qu'on vit qu'une fois, qu'on ne peut pas faire le chemin retour, c'est-à-dire ce qui est passé est passé. Et puis, quand je calcule un peu l'espérance de vie, je me dis qu'on a à peu près 30 000 jours à vivre, et je me dis qu'il ne faut pas en perdre un. Et donc, je prends, et je prends donc cette décision définitive, à 21 ans, d'être heureux le reste de ma vie. Alors, être heureux le reste de sa vie, ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas des hauts, qu'on n'a pas des bas. Hein. On a une vie comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes professionnels, des problèmes de couple, des problèmes familiaux, des maladies, des décès, la vie courante, quoi. Mais à partir du moment où on prend la décision d'être heureux, dans les hauts, bon, tout va bien, tu sais qu'être heureux quand tout va bien, ce n'est pas compliqué. Hein. Mais quand ça ne va pas, c'est là où on a des ressorts, des ressources qui sont complètement différentes. Et au lieu de se laisser aller, on va toujours revisiter l'événement du côté positif, on va revisiter l'événement du côté optimiste, on va revisiter l'événement du côté opportunité, plutôt que de regarder le pessimisme, la menace ou le négatif et de se plaindre. Donc après, par rapport à l'événement, je vais toujours, et ce qui fait toute ma vie en fait, c'est j'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu beaucoup de bas, et ce qui fait que j'ai toujours rebondi positivement par rapport à ce choix-là. Voilà. Et donc, quand j'arrive dans la société, je me dis, ben, les personnes, les collaborateurs sont comme moi, ils vivent qu'une fois, ils ne peuvent pas faire le chemin retour, et ils ont une espérance de vie de 30 000 jours, moins ce qu'ils ont vécu. Et donc, je décide vraiment, c'est une décision de les rendre heureux, même si au départ, ça pouvait paraître iconoclaste, mais je décide de les rendre heureux.
Comment on rend ses collaborateurs heureux ?
C'est un état d'esprit. C'est-à-dire que la première des choses, c'est quand tu arrives, il faut avoir une attitude d'optimisme. Parce que si tu arrives le matin en disant à tes collaborateurs, écoutez, c'est foutu, on n'y arrivera pas, c'est compliqué, l'environnement est difficile, dis-toi bien que ça va se passer comme ça. C'est-à-dire que c'est Ford qui disait à ses ingénieurs que vous pensiez réussir ou que vous pensiez échouer, dans les deux cas, vous aurez raison. Donc ça veut dire que l'état d'esprit du matin, quand j'arrive dans l'entreprise, je dois avoir le sourire, je dois donner de l'espoir, je dois donner de l'espérance et je dois donner ce souffle, cette énergie et cette conviction qu'on va s'en sortir. Ça, c'est déjà la première des choses. De façon à ce que les collaborateurs se disent « Ok, on est entre les mains de quelqu'un qui croit à ce qu'il fait, qui croit à l'avenir et qui croit à la société. » Ça, c'est la première des choses. C'est vraiment la première des choses, c'est être optimiste quand j'arrive dans le job. J'en ai fait mon job, après j'en ai fait mon boulot. Et c'est ce que je dis aux chefs d'entreprise. Même si c'est difficile, soyez optimiste. Parce que si c'est difficile et que vous êtes pessimiste, les collaborateurs vont avoir peur et eux-mêmes vont devenir pessimistes et auront moins envie de travailler, moins envie de donner et auront plutôt des attitudes de réserve plutôt qu'avoir des attitudes dynamiques, d'opportunités et de vouloir faire que ça fonctionne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si on veut rendre heureux quelqu'un, le bonheur, ce n'est pas forcément des artifices comme la crèche, comme la machine à café, comme le baby-foot. Le bonheur, c'est déjà la relation que tu as à l'autre. C'est le respect que tu portes à l'autre. C'est la considération que tu portes à l'autre. C'est la bienveillance que tu portes à l'autre. C'est considérer tes collaborateurs non pas comme des enfants, mais comme des adultes comme toi. Ces personnes-là sont parfois mariées, parfois des enfants, parfois ont même des petits-enfants. Ils connaissent la vie. Moi, à 27 ans, je suis le plus jeune de la société. Ils connaissent la vie plus que moi. Ils ont vécu des événements peut-être plus que moi. Et je n'ai pas le droit de les prendre pour des gamins en disant moi, je suis le boss, tu ne comprends rien, et voilà comment il faut faire. Donc, la première des choses, la deuxième des choses, c'est vraiment considérer ses collaborateurs comme des adultes et parler avec eux comme des adultes. Ça veut dire leur demander comment ils font, comment ils feraient, leur avis. Souvent, dans une entreprise, ce n'est pas le dirigeant qui sait faire. Le dirigeant, il ne sait pas faire. Le dirigeant, il sait entraîner, il sait avoir une vision. Mais c'est le collaborateur qui sait faire. C'est la personne qui, au quotidien, fait la tâche, sait la faire. Et donc, c'est lui qui a la solution, c'est lui qui va te donner toutes les solutions pour faire les choses beaucoup mieux, de façon beaucoup plus optimale. Donc, le respect, l'écoute, la bienveillance, moi, me paraît quelque chose de primordial. Et après, je peux mettre beaucoup de choses derrière. Un, être optimiste. Deux, être bienveillant et, vouloir que les gens soient heureux dans l'entreprise, vouloir que les gens soient bien dans l'entreprise.
Ok, être optimiste, être bienveillant, mais c'est quand même pas suffisant pour remonter une boîte comme ça en un an. Il y a quand même des pressions extérieures, il y a un marché, cette entreprise elle est pas au bord de la faillite pour rien. Il faut mettre en place des stratégies, une vision. Ton rôle pour remonter cette entreprise, il ne se résume pas seulement à l'optimisme quand même.
Bien sûr, parce que si tu veux, une entreprise, elle est soumise à plusieurs forces. Elle est soumise à des forces internes et elle est soumise à des forces externes. Bien. Les forces externes, c'est le fonctionnement de l'économie, c'est tes clients, ce sont tes fournisseurs, c'est la mondialisation, c'est la technologie, ce sont les lois, tout ça. Bon. Et ça, un dirigeant, il le sait. Il le sait et son job, c'est de toujours prendre en compte les éléments externes pour les traduire de façon positive dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une notion de responsabilité. Si je dis aujourd'hui que l'économie est compliquée, c'est un fait. C'est un fait. C'est comme ça, l'économie est plus compliquée. On vit un monde qui s'est complètement ouvert depuis 20 ans, ce qu'on appelle la mondialisation, ce qui donne des concurrences, qui donne des modifications de mode de pensée. Le monde est devenu un monde low cost, ça veut dire que c'est toujours moins cher, toujours moins cher, toujours moins cher, et on est devenu un monde connecté. Bon, quand j'ai dit ça, j'ai deux réactions. Soit je dis, ah, ma pauvre dame, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Et puis c'est la faute à l'Europe, et puis c'est la faute au gouvernement, et puis c'est la faute à Pierre, c'est la faute à Paul, c'est la faute à quelqu'un. Et je ne suis pas responsable de ça. Et ça, c'est un chef d'entreprise qui va perdre. C'est un chef d'entreprise dont l'entreprise va fermer. Ou alors je dis, eh ben, j'ai le même événement. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec cet événement? Comment je traduis mon entreprise? Comment je conduis mon bateau dans cette tempête-là pour que j'atteigne quand même le port? Et là, je vais jouer avec ça, je vais travailler avec ça. Je vais prendre en compte cet environnement et je vais le traduire de façon opportunité, positif, optimiste dans l'entreprise pour que mon entreprise, eh ben, par rapport à... Là, c'est un peu comme le surf. C'est un peu comme le surf. Le surf, si tu n'as pas de vague, tu ne peux pas aller loin. Il te faut une vague pour aller loin. Mais l'entreprise, elle va surfer sur la vague de l'environnement tel qu'il est. Et elle va le prendre, elle va faire en sorte d'aller le plus loin possible. C'est ça le rôle d'un chef d'entreprise. Ce que j'ai fait, si tu veux, quand je suis arrivé, et après que j'ai dupliqué dans les autres entreprises que j'ai dirigées et que je conseille maintenant, c'est la première chose, c'est d'aller écouter chaque membre de l'entreprise, pour savoir comment faire et créer après, par rapport à ton environnement, à créer ce qu'on appelle un plan stratégique, un plan de développement, bien évidemment, avec des budgets, avec tout ça, etc. Mais quand j'ai ce plan, si j'ai une vision pessimiste, quand il faut que j'aille voir le banquier, parce que quand tu es en faillite, il faut aller voir le banquier pour lui demander qu'il te donne des lignes de crédit, pour te demander qu'il t'aide. Il sent en moi quelqu'un qui est résigné, quelqu'un qui n'y croit pas, il ne va pas m'offrir ces lignes de crédit. S'il sent en moi quelqu'un qui, au contraire, est convaincu qu'on va réussir, est convaincu que l'entreprise va se redresser, convaincu de la qualité de ses collaborateurs, il va donner confiance à ce banquier qui va lui ouvrir des lignes de crédit. Et pourtant, j'ai le même environnement et j'ai la même stratégie. Mais suivant ma vision et mon état d'esprit, je vais complètement modifier le rapport que j'ai à l'autre et le rapport que j'ai après à la réussite.
Donc, si je comprends bien, l'optimisme, ça amplifie ta capacité à réussir. Maintenant, je pense à une conversation que j'ai eue avec un chef d'entreprise, d'ailleurs, puisque tu sais que je travaillais sur le bonheur. Hein, et donc, on parlait d'optimisme et il me dit, voilà, pour moi, l'optimisme, c'est pas vraiment une valeur forte pour mon entreprise parce que Hitler était optimiste et l'optimisme peut également te faire aller dans le mur, c'est-à-dire te rendre... aveugle.
Je veux dire, tout, si tu veux, c'est ce qui est fabuleux dans le monde, c'est qu'un couteau, ça sert à manger, ça sert à couper, mais ça peut tuer. La vie, il y a tout et son contraire. Bon, donc je peux être optimiste et vouloir faire le mal, et je peux être optimiste et vouloir faire le bien. C'est-à-dire dire Hitler est optimiste, donc il faut se méfier des optimistes, c'est une vision réductrice. Nelson Mandela était optimiste. Nelson Mandela a passé 30 ans dans la prison de Robben Island, et pendant 30 ans, il a lu un poème de William Henley qui finissait par « Je suis le capitaine de mon destin, je suis le maître de mon avenir ». Et il était optimiste aussi. C'est-à-dire que je peux être un pessimiste pervers ou un pessimiste bon, je peux être un optimiste pervers ou un optimiste bon. Donc je vais toujours accrocher après à des valeurs personnelles, qui sont, ben moi, mes valeurs, c'est l'humanisme, c'est le respect des autres, et donc le bonheur que tu vas donner aux autres, parce que ça va avec. Mais l'optimisme, c'est ton attitude personnelle, et le bonheur, c'est ce que tu donnes aux autres.
Je reviens au sujet qu'on a posé au début de cette interview, la réussite passe par l'optimisme et le bien-être. Est-ce que tu pourrais redéfinir la réussite ?
La réussite, moi je parle, si je parle de l'entreprise, la réussite d'entreprise passe par le bien-être des collaborateurs et l'optimisme du dirigeant. Si je reste sur la réussite globale, ben la réussite c'est ce que tu souhaites atteindre. C'est-à-dire que ta réussite à toi, elle va être différente de ma réussite à moi. Mais c'est ce que tu souhaites atteindre, de toute façon. Et si tu veux, si par rapport à ton projet, qui peut être aussi une mission, moi je pense que ce que tu fais, c'est plus dans l'ordre de la mission, par exemple. Hein. Si tu dis, de toute façon, je vais le réussir, ça va être super sympa, ça va être bien, je vais regarder les opportunités que je peux avoir, etc., ça va être plus facile à réaliser que si tu dis, c'est compliqué, c'est difficile, etc. Parce que je pense que toi, comme moi, tu dois avoir des gens qui doivent te dire de temps en temps, écoute, ouais, c'est bien ce que tu fais, mais bon, t'es sûr que c'est bien, et pourquoi tu réussirais toi ? Tu sais, je ne crois pas du tout à ton truc. On est entouré de plein de gens qui sont eux négatifs et qui nous disent toujours, mais toi, tu n'y arriveras pas, c'est compliqué, c'est difficile, je ne sais pas comment tu fais toi pour réussir parce que moi, je n'y arrive pas, etc. Tous les jours, on a ça.
Bah, je sais pas, j'ai jamais eu ce genre de commentaires négatifs. J'ai plutôt des retours du style « Ah, mais toi, tu es une idéaliste ». Alors justement, toi qui viens en entreprise avec ce message de l'optimisme, comment il est accueilli ce message et comment on le met en place dans l'entreprise ?
Bon, déjà, si tu veux, après, moi, je suis très factuel, c'est-à-dire, je ne vais pas énumérer tout ce que j'ai mis en place dans l'entreprise pour que les gens soient bien. C'est-à-dire qu'après, il faut, une fois que tu as le discours, il faut l'action, il faut mettre des choses en place. Et moi, je suis un homme d'entreprise. Ça veut dire que quand je parle d'une entreprise, je sais de quoi je parle à peu près. Hein. Et comment est reçu le message aujourd'hui ? Moi, je ne suis pas un idéaliste, en fait. Je suis très pragmatique. Et donc, je donne ce pragmatisme à l'entreprise. Et le message sur l'optimisme, le message sur le bien-être, c'est un message qui est très, 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 très bien reçu. Parce que, avec les neurosciences, on sait maintenant, ce qui était avant empirique, on disait, mais si tu es joyeux, ça se passe mieux que si tu es triste, etc. Mais aujourd'hui, avec les neurosciences, on sait très bien que l'optimisme, le bonheur sont des vecteurs de réussite par rapport à ce qu'on souhaite. Donc le message passe très très bien.
Bon, le tableau n'est pas si noir, alors c'est une très bonne nouvelle ça.
Ah oui, c'est une très très bonne nouvelle, puisque je te dis, moi je fais énormément de conférences, et donc le message passe bien, les gens sont contents, l'entreprise est satisfaite, les collaborateurs sont satisfaits, les clients quand ça arrive sont satisfaits, non, le message passe très bien, mais j'ai un message qui est comment on lit l'environnement, pourquoi être optimiste et comment on dope son optimisme. Donc c'est un message très pragmatique.
Il y a quelques années, j'étais encore chez Happylab, tu es venu intervenir lors d'un de nos forums. Et j'avais une amie qui était dans l'assistance et elle m'a parlé d'une formule secrète que tu aurais pour entretenir ton optimisme. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ?
Oui. Moi, comme je fais beaucoup de sport et beaucoup de vélo, etc., et je disais, quand c'est difficile pour moi, parce que ce n'est pas parce qu'on a choisi d'être optimiste que la vie est toujours facile. Quand c'est difficile pour moi, comme je ne veux pas perdre un seul de ces 30 000 jours que je vis, et il m'en reste beaucoup moins maintenant parce que j'ai 60 ans, donc il me reste moins de 30 000 jours, j'ai dit, j'ai un rituel du matin, et dans ce rituel, je me dis, je me dope à l'EPO. Voilà, donc c'est que l'EPO, c'est un dopant interdit, particulièrement employé par les cyclistes. Et moi, mon EPO à moi, et c'est vrai, tous les matins, de toute façon, ces lettres sont écrites au-dessus de mon bureau. Tous les matins, je me dis EPO, c'est enthousiasme, positif et optimisme. Ça, c'est mon dopant, c'est mon énergie à moi. Voilà. Et quand je vais bien, bon, ben, EPO, c'est pas la peine, mais quand c'est compliqué, je me dis, allez, remets-toi dans l'EPO, pique-toi l'EPO, dope-toi l'EPO, mets-toi de l'enthousiasme, du positif et de l'optimisme. Et après, donc, ça veut dire, si je suis pas bien, je vais téléphoner à quelqu'un. Tu sais, c'est toujours phrase, il faut jamais rester seul quand on n'est pas bien. Donc, je vais téléphoner à quelqu'un, comment vas-tu, etc. Puis la personne, elle peut me dire ce qu'elle veut, c'est moi qui vais lui donner de l'enthousiasme. Voilà.
Ouais, merci. Je me fais un petit cocktail de PO là et je te propose de passer directement au questionnaire qui est commun à toutes les interviews avec la première question qui demande une sacrée dose de PO puisque c'est quelle est la meilleure erreur que tu aies faite dans ta carrière et quelles leçons en as-tu tirées? En gros, est-ce que tu as traversé ce qu'on pourrait voir comme un échec et qui t'a appris beaucoup sur toi et t'a fait progresser?
Alors, la meilleure erreur que j'ai faite, c'est quand j'avais 40 ans. J'ai une chance inouïe, c'est que j'ai été président national de la Jeune Chambre économique française et j'étais représentant auprès des Nations Unies. Donc j'ai eu la chance d'aller à Rio de Janeiro, à Vienne, à New York, tout ça, etc. Et dans l'entreprise dans laquelle j'étais, qui avait 350 salariés, c'était une mutuelle. Et il y avait un conseil d'administration de bénévoles qui étaient souvent des syndicalistes. Et j'ai suscité de la jalousie. C'est-à-dire que l'erreur que j'ai faite, c'est de montrer et de dire à tout le monde la transparence de ce que je faisais. Et ça a suscité une telle jalousie que, alors que je remettais les comptes de la société qui avait jamais fait autant de bénéfices, on m'a licencié. Voilà. Donc, ouais, on m'a licencié. La jalousie a tellement été forte. La jalousie a tellement été forte que le conseil d'administration, à l'instigation du président, c'est-à-dire c'était le président qui avait cette jalousie-là, à 40 ans, m'a licencié. Alors le conseil d'administration était opposé à mon licenciement, mais à un moment donné, il a dit, écoutez, ben, c'est pas compliqué, c'est ou Monsieur Ackermann ou moi. Donc si vous gardez Monsieur Ackermann, il faudra me remplacer. Et là, tous les membres du conseil d'administration ont baissé la tête parce que personne ne voulait être président. Donc mon temps était fait. Derrière, il y a eu une grève et pour limiter la grève, il y a eu 30 personnes qui ont été licenciées en 15 jours aussi, toutes les personnes qui me défendaient. Et voilà. Alors j'en ai tiré une leçon, c'est que grâce à lui, j'ai pu faire autre chose. C'est-à-dire que là aussi, je me suis mis dans. Quand je suis rentré le soir, ça s'est passé le soir, c'était à Marseille, et quand je suis rentré le soir, j'habitais à Avignon. Et que j'ai vu mon épouse, je lui ai dit, écoute, voilà, parce qu'on sent les choses, tu sais, les choses, elles n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain. Hein. On sent les choses, et je lui ai dit, écoute, elle me dit, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que du jour au lendemain, tu sais, tu te retrouves sans argent, alors je gagnais très bien ma vie. Hein. Et tu sais, tu as toujours les frais liés à tes revenus. Et elle me dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je lui ai dit, écoute, casse pas la tête, laisse-moi la nuit, et puis demain, j'aurai trouvé la solution. Voilà, et le lendemain, j'ai trouvé la solution. Je me suis réveillé le lendemain. J'ai dit, écoute, je vais créer une boîte. J'ai créé une boîte de conseil. Par contre, comme je suis autodidacte, j'avais uniquement un bac G1, c'était nos dactylos. Je suis allé passer un MBA pendant 15 mois. Comme je ne parlais pas anglais, je suis parti au Canada anglophone pour apprendre l'anglais. Et tu vois, grâce à ça, j'ai aujourd'hui une société qui fonctionne depuis plus de 20 ans. Je parle un peu anglais, j'ai un diplôme bac plus 5, je fais des conférences et je suis très heureux. Donc la leçon que j'en tire, c'est que dans chaque événement, il y a du positif et qu'il faut regarder le positif plutôt que regarder le négatif. Et puis surtout, ne pas être nostalgique parce que l'événement, il est passé. Donc ça ne sert à rien de dire, ah, pourquoi on m'a licencié, pourquoi moi, avec tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai fait, tu te rends compte, ils ne sont pas reconnaissants. Tout ça, c'est du baratin. L'événement, il est fait, on regarde devant et on positive le devant.
Bon bah si on regarde devant, il y a la deuxième question. Et la deuxième question c'est quelle technique ou outil t'as le plus fait avancer personnellement ou professionnellement?
Alors, en fait, j'étais comme Monsieur Jourdain. Je faisais du développement personnel sans m'en apercevoir. Et en fait, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir des coachs. Quand j'avais 27 ans, j'ai pris 3 coachs avec moi. Alors, j'ai pris des coachs techniques et j'ai pris un coach. Et en fait, il m'a enseigné le développement personnel. Et j'enseigne aujourd'hui aux chefs d'entreprise le développement personnel parce que tout part de nous. Tout part de nous. Et ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'est ça. C'est tout ce qui est développement personnel. C'est d'aller voir des coachs constamment, c'est de lire des livres de réussite. C'est ça qui m'aide le plus. Voilà.
Ok, donc troisième question. Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager ?
L'humilité. L'humilité, l'ambition, le respect des autres. Vraiment le respect des autres. Souvent, je dis, le management, c'est simple. On me dit, ah, c'est compliqué, le management. Non, c'est simple. Ne fais pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on te fasse. Voilà.
La règle d'or.
C'est la règle d'or. C'est la règle d'or. Quand tu prends une décision, pose-toi la question, qu'est-ce que tu penserais, toi, si cette décision était prise à ton encontre ? Qu'est-ce que tu penserais ? Parfois, il y a des décisions difficiles. Quand il a fallu que je fasse des plans sociaux, c'est des décisions difficiles. Et il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, c'est l'ensemble de l'entreprise que tu vas fermer. Mais pose-toi la question. Tu aimerais faire partie de ces personnes-là ? Non. Donc, comment tu leur annonces ? Comment tu leur dis ? Comment tu es bienveillant ? Comment tu les aides ? Si tu veux, moi, j'ai eu des plans sociaux. Et systématiquement, avant qu'aujourd'hui, on gère tout ça par la loi et tout ça, systématiquement, je prenais chaque personne dans mon bureau le temps qu'il fallait. Le temps qu'il fallait. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée pour certains, pour les aider à se recycler dans la vie en leur disant « Je suis désolé, je ne peux pas vous garder, mais par contre, vous avez des compétences, vous avez des talents. Comment je peux vous aider dans votre vie future ? Est-ce que je peux vous aider dans de la formation ? Est-ce que je peux vous aider à quelque chose ?» Et ça va te faire rire, mais j'ai même payé un piano à mon directeur informaticien qui était un musicien, qui me dit « Jean-Philippe, oui, je suis déçu, etc. Mais à réfléchir, merci parce que je vais pouvoir entamer une deuxième carrière de musicien. »
Et puis maintenant, il joue dans le métro. Bravo Jean-Philippe.
Je ne sais pas où il est, mais voilà. Donc c'est ça. C'est vraiment comment je peux aider les autres. C'est vraiment très important. Hein, se mettre à la place de l'autre. Et puis par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire ? Il ne faut pas être brutal, quoi.
Mais maintenant, est-ce qu'il y aurait un livre que tu nous conseillerais à la lecture ?
Il n'y a pas un livre, il y a un homme qui m'a marqué, et après j'ai lu ses livres. Cet homme, c'est Anthony Robbins. Voilà, j'ai connu Robbins par l'intermédiaire d'un ami qui m'a fait venir un jour voir un coach. Et ce coach a dit, mais il y a quelqu'un qui est exceptionnel, c'est Anthony Robbins, je ne connaissais pas. Ouais, je suis allé le voir 3 fois, Anthony Robbins. J'ai lu ses bouquins comme Pouvoir illimité. Je conseille vraiment à un chef d'entreprise qui veut progresser de lire ce livre, Pouvoir illimité, changer la vie avec la PNL. C'est vraiment extraordinaire. Ça, j'avoue que ça m'a fait progresser de façon considérable.
Et nous allons finir cet entretien avec une citation qui t'inspire.
Ouais, j'aime bien la citation du livre de William Henley que lisait... Nelson Mandela, quand il finit, qui dit « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». J'adore ça parce que, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça dépend de toi, tout dépend de toi, ta réussite dépend de toi, ton bonheur dépend de toi. Bien sûr, après, tu as des personnes qui vont être autour de toi, c'est l'environnement et je vais gérer cet environnement, mais toute ta vie est décidée par toi.
Écoute, tu as répondu avec brio aux questions. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ou te joindre ? Comment on te joint ?
Si on veut me contacter, on m'appelle sur mon téléphone. J'ai un site Internet, c'est jeanphilippe-ackermann.fr. Et puis après, il y a une page contact, il n'y a pas de souci là-dessus.
Je mettrai ces infos en descriptif du podcast sur iTunes et sur le blog de Moodstep, moodstep.com. Et n'oubliez pas de prendre votre PO tous les matins. Un grand merci Jean-Philippe d'avoir partagé ton expérience avec autant d'optimisme.
Merci Johanna, à toi aussi, et à très bientôt.
À très bientôt.
Merci bien, au revoir.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien, avec peut-être une femme ou peut-être pas. Je ne sais pas si certains de vous ont remarqué, mais j'essaye d'alterner et de donner la parole autant aux hommes qu'aux femmes. Alors, je ne suis pas bornée sur une stricte parité, mais je trouve important de rétablir un équilibre qui, jusqu'ici, m'exaspérait un peu parce qu'il n'est pas vraiment respecté. Il se trouve que je suis allée à pas mal de conférences, j'en ai organisé moi-même, et souvent dans les conférences, il y a énormément d'intervenants masculins et très peu de voix féminines. Donc, je me faisais une mission que de rétablir cette égalité ou cette parité. Or, je suis face à un constat, c'est que j'ai plus de mal à trouver des femmes prêtes à parler. Alors, il y a deux tendances. Il y a celles qui annulent au dernier moment et qui ne reviennent pas. Et il y a celles qui n'osent pas, qui pensent qu'elles ne sont pas légitimes à prendre la parole. Alors, je ne sais pas trop comment faire. Déjà, je vais arrêter d'houspiller les autres, ceux qui n'arrivent pas à trouver. Et en fait, je vais juste envoyer cette petite bouteille à la mer, notamment aux femmes. Je pense que les hommes n'attendent pas d'être parfaits ou d'avoir la parole juste ou d'être complètement développés, j'ai envie de dire, pour parler, parce qu'on se fabrique en disant, en osant, en faisant des pas. Et donc, beaucoup de femmes attendent d'être prêtes. Mais en fin de compte, dans la vie, on n'est jamais prêt parce qu'on est toujours, toujours en mouvement. Alors on pourrait se dire que c'est pas très important de respecter cette parité. Parce que nous sommes tous égaux, parce que maintenant nous sommes pareils, nous portons tous des pantalons. Or, je pense que par la façon dont nous sommes éduqués, nous sommes amenés dans ce monde, nous avons des sensibilités et des manières d'appréhender ce monde qui sont différentes et qui sont influencées, c'est mon opinion, qui sont influencées par si nous sommes nés hommes ou femmes. Donc, mesdames, allons-y, osons. Et donc, j'essaierai à mon maximum de donner la parole aux femmes. Il faut qu'elles me donnent un petit coup de main. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.